Alors, on vient de voir comment résoudre le problème de race conditions en utilisant une opération atomique pour éviter les phénomènes d'entrelacement. On a vu également que l'utilisation de verrous n'est pas toujours le plus judicieux pour des questions de performance. Mais on va le voir maintenant que l'utilisation de verrous peut aussi engendrer des problèmes si on les utilise à mauvais escient. On imagine aujourd'hui, ici, que j'ai une tâche 1 qui possède le verrou A et que j'ai une tâche 2 qui possède le verrou 2. La tâche numéro 1 veut le verrou B. La tâche numéro 2 veut le verrou A. Mais toutes les deux disent, 1, je ne lâcherai le verrou A que quand j'aurai le verrou B, alors que la tâche numéro 2 dit, je ne lâcherai le verrou B que quand j'aurai le verrou A. On est véritablement là, on arrive véritablement à une erreur insoluble parce que personne ne veut lâcher. On arrive donc à ce qu'on appelle une étreinte fatale. Un deadlock, comme le disent nos amis anglo-saxons. Alors pour corriger le problème, c'est très simple. Il faut penser en parallèle, bien avant la première écriture de code, pour pouvoir identifier les points de synchronisation et pour pouvoir tout simplement ordonner correctement l'utilisation des verrous. 1, je vais acquérir le verrou A pour la tâche numéro 1. La tâche numéro 2 doit également acquérir en même temps le verrou A. Elle attendra si elle arrive à la suite de la tâche 1. Une fois que j'ai acquis le verrou A pour la tâche 1, j'acquiers le verrou B. Et la tâche numéro 2 doit également acquérir le verrou B. Donc il est très important véritablement de bien concevoir et d'analyser son application pour justement faire une recherche de cette concurrence d'accès et pour pouvoir ordonner correctement l'acquisition des verrous. Mais de la théorie à la pratique, voyons comment par code on génère une étreinte fatale et comment on la corrige. Alors pour simuler un verrou, c'est très simple. On va tout simplement créer deux objets de type lock A et lock B, qui sont donc des types objects. Donc ça va être nos verrous. Ensuite, je vais créer une liste d'aliens avec trois petits aliens. Je vais donc récupérer mes aliens. Je vais ensuite créer une première tâche. Donc là, vous avez l'habitude de la création de ces tâches dans lesquelles je vais créer ma boucle sans fin. Et puis, lorsque les aliens vont approcher ou même arriver à un verrou qu'il y a à l'écran, eh ben, je vais tout simplement verrouiller l'alien et puis verrouiller pendant un certain temps l'exécution de mon petit alien, donc il ne se déplacera pas. Et puis derrière, vous voyez, donc mon premier verrou qui est le lock A et mon deuxième verrou qui est le lock B. Donc je vais fermer et ça maintenant, vous avez l'habitude, je lève une exception lorsque j'arrête mon alien. Je vais créer une deuxième tâche. Cette deuxième tâche, elle va être exactement identique que la première, à l'exception près que je vais d'abord, lorsque je vais atteindre en fait un verrou, verrouiller l'objet LCKB. Donc c'est le même code, hein, vous voyez. La seule différence que je vais verrouiller dans le désordre mes différents verrous. Et je vais lever une exception. Ensuite, je crée un troisième alien qui lui va démarrer. Et on va vérifier si ce troisième alien peut être également arrêté par mon étreinte fatale. Donc je vais lui juste verrouiller. Voilà, et on va attendre 2 secondes. Donc, je finis. Lève une exception. Et je démarre mes différentes tâches. Voilà qui est fait. Je vais compiler. Donc ça marche correctement. J'exécute mon bout de code. Go. On voit là, j'en ai une qui part. Elle va partir. Elle repart. La verrouiller B, il n'y a pas de problème. Et j'ai les deux là qui sont en compétition et qui vont démarrer. Et est-ce qu'au bout de 2 secondes, elles démarrent? Non, elles sont complètement bloquées, alors que j'ai mon petit troisième alien, lui, qui démarre, qui continue à fonctionner. Alors si dans Visual Studio, je fais un break, est-ce que je peux arriver à voir ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, je vais aller utiliser la fenêtre de Debug Task. Et là, je devrais voir apparaître, eh ben oui, je suis bien en étreinte fatale, et là j'ai de la chance, parce que Visual Studio me le dit grâce à son débuggeur de tâches. Il me dit bien que task 2 est en deadlock avec task 1. Alors pour corriger le problème dans notre exemple, c'est relativement simple, parce qu'il va falloir tout simplement réordonner correctement les verrous, où je vais avoir une acquisition de lock A au départ et de lock B en second. Donc il va tout simplement falloir que j'acquière ici lock A et ensuite lock B. Et le tour est joué, je n'aurai plus d'étreinte fatale. Mais là, vous voyez qu'il est extrêmement important de bien concevoir au départ les parties qui seront parallélisables de votre programme pour pouvoir très finement savoir quelle partie vous allez verrouiller, quel verrou vous allez utiliser et dans quel ordre vous allez pouvoir les utiliser. Sinon, si on le fait toujours après coup, on risque de poser des verrous de façon inopportune qui causent ce type de problème-là. Alors, comme on vient de le voir, l'utilisation de verrous peut engendrer des erreurs. Donc, les experts se disent, on va développer des algorithmes sans verrous. Mais les algorithmes sans verrous peuvent engendrer des erreurs relativement rares, mais qu'on appelle les live lock. On imagine deux personnes dans un couloir se faisant face, une essayant d'aller à gauche, l'autre essayant d'aller à droite. Elles ne peuvent pas passer, l'autre essaye d'aller à droite, l'autre essaye d'aller à gauche. Et comme ça, successivement, plusieurs fois, on va avoir ce verrouillage dit live lock. Verrouillage en vie parce qu'à la différence du deadlock, les threads sont toujours en vie et à un instant T, on peut très bien libérer en fait si l'algorithme est bien fait, les deux threads ou les deux tâches peuvent se libérer. Donc ça c'est une erreur qui est extrêmement compliquée à débugger et surtout à mettre en exergue. Alors d'autres problèmes inhérents au développement parallèle peuvent apparaître. Rappelez-vous, j'avais dit en introduction, que un thread est assujetti à un ordonnanceur de tâches, et qu'on pouvait donner des priorités à ces threads. Ici, on imagine la situation suivante. Je suis dans un petit robot, j'exécute un thread de priorité basse qui doit récupérer des échantillons en perforant le sous-sol de Mars. Et puis, il doit acquérir un verrou. On s'aperçoit qu'il y a un danger imminent et qu'il faut absolument arrêter ce petit robot. On va exécuter donc un thread de priorité haute pour que ce thread puisse, par le système d'exploitation, être exécuté le plus rapidement possible. Manque de peau, il doit acquérir, pour s'exécuter, le même verrou que la thread de priorité basse, qui, verrou, n'a pas encore été relâché. Donc, le thread de priorité haute se met en attente. Manque de bol, l'ordonnanceur de thread, puisque le quantum de temps du thread de priorité basse est arrêté, va effectuer un basculement de contexte et donner, donc arrêter la thread de priorité basse. Donc, le verrou n'est toujours pas relâché. Donc, la thread de priorité haute, qui est l'arrêt d'urgence, n'est toujours pas enclenchée. Elle va simplement donner la main à un thread de priorité moyenne qui lui dit continue à avancer. Donc, bah, la thread va continuer à s'exécuter. On appelle cette erreur en programmation une inversion de priorité. Alors, avec Windows, qu'est-ce qui se passe s'il s'aperçoit qu'on a cette inversion de priorité? Il va au bout de 4 secondes, augmenter artificiellement la priorité du thread qui bloque la thread de priorité haute. Donc vous voyez, ma thread de priorité basse ici est passée en priorité haute pour pouvoir s'exécuter le plus rapidement possible. Alors un dernier problème qui apparaît également en programmation parallèle lorsqu'on utilise des verrous, c'est ce qu'on appelle le convoi de verrous, où l'acquisition d'un verrou particulier est très fréquente, mais par contre sa libération est très très lente, ce qui fait que chaque thread, chaque tâche qui veulent acquérir ce verrou vont venir s'empiler dans une file d'attente formant un convoi. C'est en règle générale un problème fondamental d'architecture parce qu'on n'a pas pensé parallèle bien avant l'écriture de la première ligne de code. Alors comme on le voit, non seulement l'utilisation des verrous est sujet à erreurs relativement complexes à débugger, mais ils sont sujets à des problèmes de performance s'ils sont mal utilisés. Du coup, les experts se disent, bah, pourquoi ne pas utiliser des algorithmes sans verrous, des algorithmes non bloquants, à l'aide d'opérations atomiques, comme on vient le voir, à l'aide d'algorithmes de type comparaswap, à l'aide d'objets relativement petits, des spinlock ou des spinwet, qui vont boucler très rapidement un laps de temps très court pour éviter la pose de verrou. Mais encore une fois, l'utilisation de ce type d'algorithme, il faut les laisser aux experts. Et c'est tout l'art de la TPL, c'est de nous fournir les objets de haut niveau pour éviter d'avoir à utiliser ce type d'algorithme et d'avoir les implémenter. D'autant plus que ça peut aller beaucoup plus loin, les problèmes inhérents au verrouillage. On imagine ici que j'ai un thread à gauche et un thread à droite. Les deux veulent écrire dans une variable A et B qui sont complètement indépendantes les unes des autres, donc pas besoin de poser de verrou. Dans ce cas, la thread 1 va écrire en fait dans le cache processeur et la thread B va également écrire dans la même ligne de cache processeur. Pour éviter justement que les données soient incohérentes, il faut que le processeur en lui-même verrouille la ligne de cache. Ben, tout l'attrait d'utiliser la TPL, c'est que si on utilise des objets de plus haut niveau, c'est la TPL qui va gérer ce type de problème pour nous, en par exemple redimensionnant la taille d'une variable en mémoire pour éviter qu'elle soit dans la même ligne de cache processeur. Alors pour résumer, il faut utiliser des objets de synchronisation pour le partage de données en mémoire. On a les objets du noyau Windows, qu'on appelle par exemple les mutex, sont des objets à utiliser lorsqu'on veut faire de l'exclusion forte. Et comme on dit que c'est ces objets du noyau Windows, ils vont permettre une bonne interopérabilité avec des API Windows si on devait les utiliser. On a des opérations atomiques, comme on l'a vu, qui permettent en une seule passe de faire une incrémentation ou une décrémentation. Et on a des objets de plus haut niveau, des objets qui sont faits par et qui sont faits pour le framework .NET, comme le lock ou le monitor.enter ou exit ou le tryenter, ou le reader-writer lock qui permet plusieurs lecteurs et un seul écrivain à un instant T, ou si on veut aller un petit peu plus loin, comme on l'a vu dans la démonstration, un spinlock. Mais il existe d'autres objets hyper importants à utiliser à la place de refaire et de réinventer la roue. Ce sont les collections concurrentes qui sont déjà thread safe et donc qui gèrent déjà le multithreading pour nous. Et bien pour aller un petit peu plus loin, voyons comment on va utiliser par code ce type de collection. Alors, pour illustrer l'utilisation des collections concurrentes, on va utiliser un modèle de développement en programmation parallèle qu'on appelle le producteur-consommateur. Je vais avoir quatre producteurs qui seront symbolisés donc par des aliens et un consommateur qui sera également symbolisé par un alien. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer 100 fois la somme de 1 euro et ceci multiplié par 4 parce que j'aurai 4 producteurs. Derrière, j'ai mon petit consommateur ici qui va consommer à chaque fois ce que va être déposé dans son compte en banque. Alors pour ce faire, on va utiliser une collection bloquante qui est disponible dans le Task Parallel Library qui s'appelle la Blocking Collection et qui prend comme élément donc une classe dépôt que j'ai définie. Classe dépôt qui est complètement aléatoire, bien évidemment. Donc je vais créer cette Blocking Collection de dépôt et surtout je vais lui dire pour son algorithme interne, tiens, tu vas utiliser un nombre de producteurs qui sera égal à 4. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais pouvoir partager plus facilement en mémoire cette blocking collections. C'est elle qui saura s'arranger par rapport au nombre de producteurs pour éviter qu'il y ait des conflits en mémoire et donc soit des else conditions, soit des verrous qui soient posés de façon intempestive. Ensuite, je vais créer un tableau de tâches du nombre de producteurs et je vais démarrer pour le nombre de producteurs le nombre de tâches adéquates, c'est-à-dire 4. Donc je démarre mon producteur, je vais démarrer mes aliens pour qu'on voit visuellement ce qui se passe, et puis je vais déposer l'argent sur le compte en banque. De la même manière, ce que je fais, je vais mettre une charge à 2 secondes pour simuler justement un travail. Et puis derrière, je vais déposer l'argent. Donc je vais utiliser mon dépôt, ma classe dépôt qui a une propriété montant et je dépose 1 euro. Ensuite, je vais utiliser la Blocking Collections. Elle a une méthode add et voyez que je ne suis pas en train de l'entourer autour d'artifices de verrou par exemple, puisque la méthode add en elle-même est dite thread safe, donc ça se fait automatiquement, alors que je suis là en train d'ajouter dans un thread ou dans une tâche particulière. Donc je vais ajouter mon dépôt et je sais qu'il est thread safe. Donc je vais continuer. Ensuite, je vais dire tout simplement, lorsque toutes les tâches donc tous mes producteurs auront fini. Dans ces cas-là, ce que tu vas faire, eh ben, tu vas tout simplement dire, je complète l'ajout. C'est-à-dire que je finis, l'ajout est fini dans cette collection. Et là, j'ai une méthode qui est complète adding. Et j'ajoute. Après, pour arrêter mes petits aliens, je vais tout simplement faire un cancel. Qui vont utiliser ça utilise le jeton en fait d'arrêt comme on l'a vu précédemment. Alors maintenant, je vais créer mon compte bancaire pour aller justement consommer ce que j'ai déposé. Je vais créer une task consommateur, je la démarre. Dans cette task consommateur, je vais tout simplement parcourir une collection, donc ma collection. Je vais dire, est-ce que c'est fini? Est-ce que l'ajout a été fini? Si tel n'est pas le cas, je vais donc essayer, attention, je dis bien essayer, de récupérer un dépôt. Si ça fonctionne, je vais pouvoir donc faire une somme. Donc voilà qui est fait. Donc je fais la somme d'un dépôt sur mon compte bancaire. Je vais afficher le montant donc à l'écran. Donc ça c'est pour que vous voyez bien. Et puis, tiens, par exemple, je vais déplacer mon petit alien consommateur. Si je n'y arrive pas à récupérer un dépôt, en gros, si c'est pas encore disponible, je vais tout simplement arrêter mon alien pour un tour. D'accord? Là, je finis. Ensuite, une petite gestion d'erreur. Je vais attendre que mon consommateur ait fini. Je passe, voyez, à mon consommateur et à la méthode wait le jeton d'arrêt. Puis après, je pourrais afficher, si je voulais, la balance. OK? Donc, dans mon catch, rappelez-vous, j'ai une exception d'agrégation qui agrège dans la TPL les erreurs qu'il pourrait y avoir dans les différentes tâches. Il faut parcourir, rappelez-vous, l'inner exceptions avec un S, qui est une liste d'exceptions. Et là, je vais afficher tous les messages. Alors, voilà qui est fait. On va compiler, exécuter. Et voyons ce qui se passe. Lorsque je démarre, ici, vous voyez que mes threads de producteur, elle démarre. Toutes les 2 secondes, ça s'arrête parce que, justement, j'ai une simulation et lui, il a rien à manger, donc il a rien à, il a rien à, comment dire, à ajouter dans sa, dans son compte bancaire. Donc, du coup, il attend petit à petit. Vous voyez, elle avance petit à petit. On voit d'ailleurs ici en haut à droite qu'on affiche le montant à chaque tour de boucle et on voit que ça s'ajoute d'un euro pour chaque producteur, donc de 4 euros à chaque fois. Vous voyez, 88, 92, etc., etc. Donc là, vous avez l'illustration de l'utilisation d'une collection bloquante qui permet justement d'éviter de réinventer la roue pour ce type d'algorithme-là, par exemple. Donc, dès qu'il y a possibilité d'utiliser un objet de la TPL, il est préférable de les utiliser plutôt que de réinventer la roue. Bien, dans le prochain épisode de débuter en développement parallèle avec le framework .NET et la Task Parallel Library, nous allons aller voir les mécanismes du système d'exploitation que sont les objets de coordination des threads ou maintenant des tâches.